Vous savez, souvent, on pense que la vie chrétienne, que la vie spirituelle, appelez-la comme vous voulez, on pense souvent que c'est un supplément, une liberté qui nous est donnée, une occasion qui se présente à nous d'avoir quelque chose de plus, de croire. On ne se rend pas compte à quel point c'est vital. Et quand on parle généralement de ce qui est vital, on pense que c'est un symbole, une image, un plus. Alors que c'est vraiment vital, alors que c'est vraiment la vie elle-même. Dans la résurrection du fils de la veuve, cette résurrection est évidemment une revivification, la reprise par la vie d'un corps qui a été mort pendant quelques heures. Mais de ce corps de chair, de ce corps tel que nous le connaissons physiquement et psychiquement aujourd'hui. Mais ce n'est pas la vraie mort. C'est pour ça que à un autre moment, quand le centurion vient annoncer au Christ que sa fille est morte, il dit, mais elle n'est pas morte, elle dort. Parce que réellement, en toute objectivité, la mort, c'est-à-dire la cessation des battements du cœur et de la respiration d'une personne, n'est pas la vraie mort. La mort n'est qu'un sommeil. Elle est le passage, elle est la naissance ou la renaissance d'un état de vie à un autre état de vie. Cela, ce n'est pas une croyance, c'est vraiment la réalité de notre être. Réalité qui n'a pas besoin d'être reconnue par la science, ce n'est pas le domaine de la science. La science s'arrête à notre vie biologique. Mais au-delà de notre vie biologique, qui n'est que un niveau de notre existence, il y a un autre niveau, celui auquel nous participons tous, consciemment ou inconsciemment. À témoignage de cela, l'exclamation des témoins de la résurrection du fils de la veuve, comment il dit, le Seigneur a visité son peuple à la suite de cette résurrection du fils et de la veuve. Le peuple dit, le Seigneur a visité son peuple. Donc, le peuple simple a bien compris qu'à travers cette revivification du corps d'un jeune homme, il y avait autre chose qui se passait. Il y avait une incidence sur toutes nos existences, sur notre existence. C'est un témoignage que la vie, tout simplement, est autre chose que notre vie biologique, qui, elle, est éphémère, qui dure, dans les meilleurs cas, une centaine d'années, ce qui est tout de même, et quand même peu de choses. Quand le Seigneur visite son peuple, c'est une résurrection. Le Seigneur est créateur, il donne la vie. Et c'est pour cela que le peuple, voyant la résurrection de ce jeune homme, voyant la vie dominer la mort, a immédiatement conscience que le Seigneur est présent, le vivificateur est là. Et cette réalité de la résurrection doit être devrait être notre expérience quotidienne, et plus que quotidienne, perpétuelle. Si la vie n'est pas la vie biologique, elle est d'un autre ordre. Elle est de l'ordre de la visite, de la visitation du Seigneur dans notre existence. Notre existence, notre survie, j'allais dire, ou la trame de notre vie biologique, c'est une irruption de la vie divine, de la seule vie qui soit éternelle dans nos vies devenues éphémères par la suite de notre déchéance. Cette expérience de la résurrection se manifeste, se perçoit à travers tous les élans, toutes les élévations suscitées par l'Esprit Saint, mais avec notre collaboration, tous les élans vers Dieu, chaque moment de conversion, chaque pensée bonne qui surgit dans notre cœur, chaque élan de générosité réelle, chaque prière, chaque élévation de notre être vers Dieu est une participation, est une expérience, certes, hélas, momentanée, mais ajoutez les moments les uns après les autres et vous avez un temps infini, une manifestation de la présence de Dieu, de la vie de Dieu en nous. Si bien que cette résurrection, elle ne s'est pas seulement promise pour après notre mort biologique, à la fin des temps, comme on dit, mais elle est notre expérience de chaque jour. Si nous voulons vivre, il faut nous laisser élever, nous laisser hausser à un autre niveau de cette existence, au niveau de l'existence éternelle, à travers la prière, à travers évidemment les sacrements, à travers essentiellement la liturgie et la communion, qui ne sont pas des rites que nous accomplissons pour faire plaisir à Dieu, mais qui sont une réception, un effort, une conversion, un retournement qui nous permet d'enlever notre gang déchu pour mettre à jour, mettre à vif, je prends le terme exprès, la vie de Dieu, la vraie vie qui est en nous. Certes, nous élever à ce niveau d'existence et crucifiant demande d'enlever notre carapace égoïste, d'enlever nos sécurités humaines, d'enlever, de faire la part des choses avec notre science humaine pour nous laisser recueillir par la vie divine. Croyez-le bien, hors de cette vie dont j'essaie maladroitement de vous exposer aujourd'hui, croyez bien qu'au-delà de cette vie, il n'y a pas de vie. Au-delà de cette vie, c'est le néant. Et toute la mission, tout l'évangile, toute la bonne nouvelle, puisque c'est celle que signifie évangile, toute la bonne nouvelle que le Seigneur est venu nous apporter ne sont pas des promesses verbales d'une vie future meilleure, mais c'est l'octroi, le don totale de cette vie divine, de cette seule vie qui peut durer et qui peut nous faire accéder à ce qu'on appelle maladroitement la vie éternelle. Cette expérience simple, qui n'est justement n'est pas d'ordre intellectuel, il ne s'agit pas de le réfléchir, il s'agit dessus, il ne s'agit pas non plus de le sentir physiquement, mais c'est une réalité qui se perçoit par la foi, la foi étant un sens, le sens le plus profond qui est donné aux hommes, le cœur qui soutient la foi et cet organe à l'intérieur de nous-mêmes que Dieu nous donne pour percevoir à sa manière, à la manière de ce sens, la vie divine et notre vraie vie. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'aurait pas l'expérience de la vie éternelle, qui n'aurait pas l'expérience personnelle de la résurrection, serait un hypocrite. Nous n'avons pas toujours la conscience intellectuelle, cérébrale. Mais malgré tout, plus profondément, au niveau le plus profond de notre existence, nous avons l'expérience de cette vie éternelle. Le Seigneur a visité son peuple et il le visite toujours. La visitation de Dieu, c'est l'inflammation, l'explosion de la vie dans notre néant. Je ne parle pas d'un néant moral, je parle simplement d'un néant d'existence. Si nous voulons vivre, haussons-nous, ressuscitons, c'est-à-dire acceptons la résurrection, la vie éternelle que Dieu nous donne. On est pécheur, on est gravement pécheur, on retombe souvent dans notre péché, et alors, ça n'empêche pas l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Ce qui empêche l'œuvre de Dieu de s'accomplir, c'est notre refus de l'irruption de Dieu dans nos vies. C'est la volonté de rester attaché aux lois physiques, aux lois déchues de ce monde, et de ne pas croire, de ne pas adhérer à cette vie que je n'ose pas dire supérieure, puisque je suis en train de vous dire qu'elle est la seule vie. Et pourtant, par rapport à cette vie biologique, elle est supérieure, bien sûr. Et si nous voulons, quelle que soit la conscience que nous ayons de notre péché, c'est par la foi en cela, d'une part, mais c'est aussi par notre prière, par nos élans d'amour vers Dieu, c'est-à-dire des élans de conversion. Seigneur, je suis pécheur et j'arrive pas à quitter mon péché, mais je te promets, je t'aime. C'est une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois par jour qu'il faudrait répéter à Dieu d'une manière ou d'une autre, Seigneur, je t'aime. Et ces élévations-là, si elles sortent du cœur, si elles ne sont pas simplement une parole verbale, ces élévations-là sont simplement l'acceptation de l'irruption de Dieu dans nos vies. C'est l'expression personnelle, l'assimilation personnelle du don que Dieu nous fait de son existence. Et c'est de cette manière-là qu'il visite son peuple, c'est de cette manière-là qu'il nous transfigure et qu'il nous sauve. Qu'est-ce que c'est que le salut ? Croyez-vous que le salut soit une récompense que Dieu nous donnerait si on n'a pas trop fait trop de mal dans le monde, et même si on a fait un petit peu de bien dans la mesure du possible, et que ça nous permettrait d'avoir une récompense, un bon point, quand on arriverait de l'autre côté de la vie. L'autre côté de la vie, c'est aujourd'hui. La récompense, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas une récompense, c'est une participation. Il faut cesser de voir notre vie chrétienne comme une vie morale. Bien sûr que ça implique une certaine manière de vivre, ou tout du moins un essai de vivre de cette manière. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est cette communion, cette joie, ce désir intime, en progression perpétuelle, de nous attacher à celui que nous sommes censés aimer parce qu'il nous aime, parce qu'il nous visite. Les évangiles, les récits évangéliques, ne sont pas des histoires passées qui nous sont racontées, qui sont répercutées pour nous édifier sur la vie du Christ ou des saints. Les évangiles, les récits évangéliques sont tous, sans exception, une incidence sur nos vies. Tous les récits évangéliques nous engagent. C'est une révélation sur notre vie et notre existence. Mais à nous de les prendre à ce niveau-là, et de ne pas les prendre seulement comme une histoire. Si l'irruption de Dieu dans son peuple, comme il est dit dans l'Évangile, dans ce récit évangélique, si l'irruption de Dieu dans nos vies nous donne la vie, la seule vie que j'essaie de vous décrire. Si vous avez la foi, ou si nous en avons la foi, parce que nous sommes tous dans la même galère, si nous en avons la foi, ne croyez-vous pas que à chaque fois que nous recevons Dieu, c'est-à-dire à chaque fois que nous sommes en communion avec lui, que la communion soit la communion eucharistique, ou la communion par notre adhésion, par notre foi ou par notre prière, ne croyez-vous pas que cela nous donne totalement la vie ? Et je veux dire par là, d'une manière très concrète, nous sommes, paraît-il, en guerre contre un virus qui menace notre humanité. Et si nous avons la foi, si nous laissons Dieu faire ses irruptions, visiter son peuple, croyez-vous pas que nous serions comme le fils de la veuve ? Ne croyez-vous pas qu'il vient nous donner la vie ? Pas simplement en nous laissant mourir pour nous donner de la récompense plus tard, mais pour nous donner la santé, la vie et la santé aujourd'hui. Que craindre ? Que craindre de ce que le monde peut faire ? Quand je dis le monde, je ne parle pas des hommes, je parle des lois du monde, de la biologie, si vous voulez, notamment. Qu'est-ce que ça peut faire ? Et Dieu n'est-il pas plus fort ? Nous sommes atteints de maladies, sous toutes ces formes, y compris celles avec lesquelles on ne veut nous faire peur aujourd'hui. Mais Dieu vient dans nos vies, il nous donne la vie éternelle, et il nous fait ressusciter. Il n'y a rien à craindre. Cette confiance en Dieu, même pour les choses biologiques, je ne sais pas comment vous les appelez, pour la lutte contre la maladie, est le résultat de cette venue de Dieu dans son peuple. Et si nous voulons l'accepter, il faut accepter aussi, si je puis dire, les risques, c'est-à-dire accepter, parier sur une autre vie, mais pas uniquement sur la vie, sur les éléments scientifiques. Notre foi doit être ailleurs. Et d'ailleurs, on n'a rien à craindre. Et si nous voulons le salut de l'humanité, le salut de tout homme, comme le salut du fils que la veuve aurait aimé voir vivre et qu'elle a dû vivre, c'est essentiellement, non pas en se protégeant par des vaccins ou des médicaments qui ont leur place aussi, mais qui ne sont pas la panacée universelle, c'est essentiellement par une conversion de nous-mêmes, c'est-à-dire une demande, un acte de foi en Dieu pour que lui sauve le monde. Autrement dit, notre vocation, si nous sommes chrétiens, notre rôle, notre vocation, notre charisme est de lever nos mains avec foi vers Dieu en disant « Viens et visite ton peuple ». Et non pas uniquement d'œuvrer dans les choses humaines qui sont forcément limitées dans le temps et dans l'espace. C'est par notre conversion, par notre prière, par le don de notre vie à Dieu, ou dans la vocation, ou en s'épanouissant dans la vocation qui est la nôtre aujourd'hui, ou en choisissant notre vocation de don à Dieu quand on est en âge de le faire, c'est de cette manière-là qu'on peut, pour prendre une image, élever nos mains vers Dieu et lui dire « Viens Seigneur Jésus ». Et si on lui demande, il n'y a aucun doute à avoir, il nous est déjà apparu, nous l'avons chanté à plusieurs reprises pendant la liturgie et pendant l'orthros, nous le chantons, nous le proclamons 10 fois, 100 fois par jour, mais que ce ne soit pas seulement des paroles, ce ne soit pas simplement des mots, mais que ce soit l'expression de notre vie et que nous y adhérions totalement. Et à ce moment-là, soyons certains que le salut, c'est-à-dire les visitations de Dieu nous sont acquises, car jamais, d'aucune manière, il ne nous abandonne. Ça a été chanté dans un tropaire tout à l'heure. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et ne pas les abandonner, c'est-à-dire leur faire partager sa vie, les mettre en communion avec lui.